Nous sommes en Jean chapitre 6 et commençons à verset 22. Le lendemain, donc le lendemain après, Jésus a nourri les 5000 personnes, qui a marché sur les eaux, calmé la tempête, une journée assez remplie. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il ne s'était trouvé là, Jésus donc, et qu'une barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls, parce qu'il y avait une tempête, donc effectivement, il n'y a personne qui sorte la nuit dans une tempête, sauf que si on est quand même ordonné de le faire par Jésus-Christ, donc en ce cas-là, on est bien obligé. Mais comme ils n'avaient pas cette commandement, donc ils ont resté tranquilles, à l'abri des pluies. Et puis, en voyant qu'il manquait une barque, donc ils commencent à rechercher Jésus. Mais d'autres barques arrivèrent de Tibériade, certainement ceux qui ont entendu ce qui s'est passé. Et c'était là, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaüm à la recherche de Jésus. Et le trouvèrent de l'autre côté de la mer. Ils lui dirent, « Rabbi, comment es-tu venu ici ?» Parce que c'est assez remarquable, ils ont cherché partout. Le lac est assez grand, mais c'est pas aussi grand que ça. Il y avait certains, comme aujourd'hui, il y a des villes, des petits villages tout autour. Donc ils ont eu le temps pour voir, demander les nouvelles, n'ayant pas trouvé. Finalement, ils sont à Capernaüm qui était une ville assez grande. Nous savons grâce à verset 59 qu'ils trouvent finalement dans la synagogue. Et puis, et Jésus répond, en vérité, je vous le dis, vous me chercherez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? Et Jésus leur répondit, ce qui est de l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Droit au but, Jésus, il dévoile leur cœur. Oui, ils cherchaient la nourriture, ils cherchaient ce qui est physique. Mais Jésus dit, ce qui est le plus important dans leur vie, ce qui va vraiment importer, c'est la croyance en Dieu. Ce qui est intéressant, qu'on peut assister à des réunions, on peut être en contact, quelque part, avec Jésus, tout en restant incroyant. C'est remarquable ça. Surtout à l'époque, quand on voit des yeux, ça montre aussi que la vue, ce n'est pas du tout la croyance, ce n'est pas la foi. C'est tout simplement observation. Et ce fait est bien souligné par leur réponse. Parce que s'ils avaient cru réellement, ils seraient avec Jésus. Et ils n'auraient pas besoin de le dire. Il faut que vous croyiez, et pas que vous travailliez. Et eux, ils sont tout prêts à travailler. Parce qu'il faut dire qu'il y a quelque chose dans notre chair qui aime bien travailler. Quand on mérite quelque chose, ben c'est une récompense émotionnelle aussi. Mais Dieu est saint, totalement saint, parfaitement saint, qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour mériter justement son approbation, son amour, sa faveur, mais un travail de foi. Parce que la foi, et c'est tout au contraire de ce que disent les gens, je trouve, ça ne vient pas de soi. La foi, c'est pas quelque chose qui est là et qui, comment dire, qui nous soutient sans effort pendant toute notre vie. Ben, la foi est aussi un apprentissage. Je dirais, c'est du travail aussi. C'est du travail parce que si on ne la nourrit pas, si on arrête de la cultiver, on se rend compte vite qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes dans le champ de notre foi et ça pousse très très facilement. Et je pense, c'est une opinion personnelle, mais je pense que c'est aussi pour ça que en Éphésiens, à chapitre 6, quand Paul commence à dénombrer les différents éléments de la guerre spirituelle, les différents armures, pièces de l'armure, on parle de boucliers de la foi qui éteignent ces flèches. Parce que si on n'entretient pas ou on ne cultive pas notre foi, justement, ça permet que ces flèches entrent. Et puis notre bouclier de foi, pour employer un autre métaphore, ça devient troué. Et il y a beaucoup de problèmes qui en suivent. Nous travailler en vue de cette nourriture qui ne périt jamais. Ils préparent aussi le champ de leur esprit, parce qu'ils n'ont pas compris ce miracle. Et c'est ça ce que j'aime avec Jésus. Déjà, ils sont là. Ce n'est pas des gens qui n'ont aucun intérêt, qui ne s'intéressent pas à lui. Non, ils sont là. Et il prend son discours et il commence vraiment à partir de ce qu'ils n'ont pas compris. Notamment le miracle de ces pains multipliés. Parce que chaque miracle que nous avons dans l'Écriture est en réalité tout un sermon, une description de la divinité de Dieu. Et c'est vraiment l'évangile de Jean qui nous permet de voir ça. Parce que chaque fois que Jésus fait un miracle ou un signe, il commence à expliquer pourquoi. Ça montre qu'il est Dieu. Et tel est le cas ici. Alors, eux, ils pensent toujours dans le physique. Et qu'est-ce qu'ils disent? Verset 30. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils. Afin que nous le voyions et que nous te croyions. Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna à manger le pain venu du ciel. Alors, quel miracle! Paul a dit en Corinthiens que les Juifs, ils cherchent un signe. Et ça a été déjà dans leur mentalité, des signes. Ils voulaient que Dieu fait quelque chose, qu'il y ait une preuve. Effectivement, quand la nation a été libérée d'Égypte, Dieu a donné à Moïse des signes. Mais le problème, c'est que Jésus a montré beaucoup de signes. Justement, la veille, ils ont vu des signes. Et eux, comme ils pensent toujours à leur ventre, tout naturellement, le sujet du pain revient. Et ici, c'est un peu d'écriture en plus. Mais Jésus, il leur dit, verset 32, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père. Notez bien, eux, ils ont parlé de leur père. Et Jésus dit, non, non, mon père, Dieu Très-Haut, c'est lui qui a donné le pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Un peu comme la femme au puits, la Samaritaine. Le champ est préparé. Maintenant, il commence à s'interroger. Oui, je veux ce pain. Eux, ils pensent que Jésus, effectivement, comme il a multiplié les pains, maintenant il va faire tomber certainement la manne pour eux, et puis ça va être encore une autre chose. Ils pensent dans cette manière-là. Et ils disent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Parce que, rappelons-nous, que quand ils sont entrés dans le territoire, c'est là où la manne s'est arrêtée. Alors, Ça serait génial. Donne-nous toujours ce pain. Mais pourquoi est-ce que le pain s'est arrêté quand ils sont entrés dans le territoire? Parce que maintenant, ils peuvent travailler. Et ils sont dans un lieu où ça pousse naturellement. Il est intéressant qu'en Israël, justement, il y a des fruits qui poussent sans qu'il y ait personne pour les cultiver. L'orge pousse naturellement. Il y a des figues qui poussent naturellement. Il y a aussi des dattes qui poussent naturellement. Il y a des olives qui poussent naturellement. Donc, la manne, si vous voulez, il vient là, mais dans une autre forme. Jésus leur dit, maintenant pour que ça soit bien clair, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Notez bien, en un verset, il fait l'accent sur lui-même. Trois fois, il emploie le mot « moi ». Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ils sont à la recherche de quelque chose. Ils sont prêts à traverser tout le paysage en cherchant Jésus parce qu'ils ont faim spirituellement. Et ils ne le reconnaissent pas. Comme ils pensent physiquement, ils pensent des choses terrestres, le vrai besoin est masqué par ces actes physiques, spirituellement, ils ont un vide en eux. Et donc, ils cherchent partout à remplir ce vide. Ils cherchent partout Jésus. Ils savent qu'il y a quelque chose là. Mais ils n'ont pas encore compris. Je vous l'ai dit. Vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Ça nous fait penser à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ils ont vu tout. Ils ont cru que Jésus est capable de faire des miracles. Ils n'ont pas cru en lui. Deux choses complètement différentes. La première, c'est une observation tout simple. Par exemple, je sais que quand je branche ma lampe, ça va marcher s'il y a l'électricité. Et c'est une croyance par l'observation. Je ne vois pas, mais je sais. Par méthode d'expérience. Mais croire en Jésus, ça c'est tout autre chose. Et ça relève à quelque chose qui ressemble à quelqu'un qui mange du pain. Car encore, il dit que je suis le pain de vie. Alors rappelons-nous qu'à cette époque, c'est pas seulement en Israël, mais partout dans le monde ancien, quand on va chez quelqu'un, et on mange chez quelqu'un, ça représente une communion. Si on brise le pain et on mange le même pain, ce même pain qui entre en vous, entre en moi, et donc il y a communion, il y a une unité de pensée, il y a une harmonie, une fraternité, si vous voulez, qui se passe. Alors, maintenant, Jésus, il parle de lui-même. La foi ressemble à celui qui mange pour avoir la vie. Je sais que pour vivre, il faut que je mange du pain. Et donc quand j'ai foi, quand j'ai la foi, c'est comme une consommation. C'est comme je sais que si je le mange pas, pour utiliser les mêmes mots, je vais mourir. Donc je le consomme. Pour manque de meilleurs mots, mais pour utiliser les mots de Jésus, pour vivre. Donc, si vous voulez, c'est un effort de mettre tout ce qui est en moi, en lui, pour recevoir tout ce qui est en lui, pour que je vive, et non pas ce que je fais de moi-même. Donc il y a une communion qui est faite. Une communion exactement comme si je vais chez quelqu'un et je brise le pain et nous mangeons ce même pain et que ça soit partagé et digéré en nous tous. Mais maintenant, parce que Jésus est le pain de vie, comme ce pain entre en moi, comme je fais l'effort de le manger, c'est lui qui le dit, ça devient un exemple de la foi, de ce qu'on fait avec la foi. Et ça montre que la foi n'est ni aveugle, ni passive. C'est actif dans le sens que manger, c'est actif. Le fait de manger passivement, ce serait plutôt d'avoir le tuyau qui entre dans notre bras et qui nous nourrit comme ça. Nous, celui qui croit en lui, il prend le temps quand même d'aller à la boulangerie, qui achète son baguette et qu'il met son beurre ou je sais pas, et puis il le mange. C'est donc actif. Mais eux, ils l'ont vu, ils n'ont pas cru. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, eux, ils ont vu, mais ils n'ont pas compris. Comment ça? Ça demande justement des explications. Et Jésus leur donne cette explication par un verset assez cryptique. Il dit, tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. C'est-à-dire que ceux qui refusent de croire sont parmi ceux que le Père n'a pas donné. Alors, avec ce verset, nous entrons dans ce grand monde de la question entre la prédestination et le libre arbitre. Parce que ce qu'il dit là, c'est que le Père donne certaines personnes. Il y a des gens qui sont donc offerts, qui sont élus, choisis par Dieu. C'est Jésus qui le dit. Tout ce que le Père me donne, il viendra à moi. Donc, c'est un verset solide pour parler de, oui, Dieu prédestine ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a connus avant la fondation du monde, ceux qui connaissaient, qui vont le choisir. Parce que l'autre côté de ce verset, et c'est un verset solide pour parler du libre arbitre aussi, parce que nous avons le mot « venir ». Ce qui viendra, il faut qu'il vienne. Il faut qu'il vienne par le propre arbitre, et par le propre choix. Le fait qu'il vient à Christ montre qu'ils sont parmi ceux qui sont choisis. Donc dans un seul verset, et c'est la sagesse divine, c'est, il n'y a que Jésus qui puisse dire une chose aussi profonde, mais il a dit, nous voyons que les gens choisissent, mais si ils choisissent de venir, ils viennent, s'ils viennent, donc, c'est parce que Dieu les a choisis. Donc les deux choses sont en opération simultanément. Dieu qui connaît avant tout, qui nous connaît parfaitement, il sait qu'ils vont venir, et la preuve que quelqu'un est parmi les élus, c'est que dans leur vie, ils se lèvent, ils viennent à Christ. Mais ils viennent à Christ par leur propre volonté. Dieu ne les prend pas par les manches et les force à venir. Personne n'est forcé à venir à Christ. Mais ils se lèvent, ils viennent. Et donc, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Excuse-moi. Et je ne jetterai dehors celui qui vient à moi. C'est-à-dire que Jésus ne refusera jamais un pécheur. Jamais. Et ça, c'est encore une autre phrase merveilleuse qui nous montre que d'abord, il faut se repentir, il faut venir à lui. Mais n'importe qui vient à lui ne serait jamais jeté dehors. Encore, n'importe qui peut se lever pour venir à Christ, mais s'il le fait, ça montre que, en réalité, il a été déjà choisi parce que le Père le connaissait avant la fondation du monde. Par exemple, pensons à notre vie, pensons à votre vie. Quand vous avez donné votre vie à Christ. À quelque part, il y avait la conviction du Saint-Esprit. Vous saviez qu'il y avait quelque chose qui cloche dans votre vie. Vous saviez qu'il y avait un besoin. Alors, vous vous êtes repenti. Et du coup, après que le Saint-Esprit est venu dans votre vie, quand vous réfléchissez maintenant sur votre vie, vous remarquez que, en fait, Dieu préparait cet événement depuis toute votre vie. Il a mis toutes ces choses en place, même vos parents, même les mauvaises expériences, des choses, vous conduire finalement à lui. Pourtant, est-ce que vous avez été amené contre votre volonté dans le royaume de Dieu? Non, vous l'avez choisi. Et Jésus ne jetterait jamais personne qui vient à lui dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, et que je le ressuscite au dernier jour. Encore une autre promesse, que pour ceux qui sont en Christ, pas grâce à eux, Jésus a le pouvoir en lui-même de nous garder, bien que nous tombions, bien qu'il y ait des problèmes, il y a des tentations, il y a des attaques farouches de l'ennemi. Malgré tout ça, Jésus a le pouvoir de nous amener sains et saufs à la maison, pour nous amener jusqu'à ce que nous passons de cette vie à la vie éternelle, à la résurrection. Et ça, c'est la volonté du Père. C'est ça qui est merveilleux. Le Père veut que nous ne soyons pas perdus. Et c'est Jésus qui le fait. Alors, ça ne veut pas dire que si nous sommes, entre guillemets, élus, nous pouvons faire n'importe quoi, tout ce qu'on veut, parce que grâce à Dieu, Jésus va nous garder et que tout va être bien. Non, ça ne veut pas dire ça. Parce que quelqu'un qui adopte cette idée témoigne d'une vraie méconnaissance du sang de Christ. Du sang de Christ qui est versé pour nos péchés. Quelqu'un qui vient à Christ, il aura une idée peut-être limitée, ok, d'accord, mais parce qu'on aura tous une idée limitée de la puissance du sang de Christ, mais il ne le méprisera jamais. Ça ne veut pas dire que la personne est parfaite. Là, on a plein d'exemples des gens qui ont fait des grosses erreurs. Il y a David, par exemple, mais par sa vie et par le fait qu'il revient toujours à Dieu, ça montre exactement ce que nous disons ici. Alors, Jésus a le pouvoir de nous garder. Et voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque, notez-le bien, quiconque voit le Fils et croit en lui, et la vie éternelle. C'est pas seulement les élus ou le petit nombre de personnes pour lesquelles Jésus est mort. Non, 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 non. Le mot en grec pour quiconque veut dire quiconque. N'importe qui voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Moi, je suis le pain descendu du ciel. » Et là, je trouve intéressant parce que, rappelant un petit peu cette histoire en Exode 16, parce que ça a commencé avec des murmures. Et là, en voyant le pain venu du ciel, ils commencent à murmurer encore. Ils n'ont pas compris comme ils n'ont pas compris avec la manne. Et ils disaient, mais celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, lui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Ce sont des gens de sa région. Et il y a un danger à avoir une connaissance de Jésus qui est trop irrévérent, je trouve. Eux, ils connaissaient en tant qu'homme seulement, connaissant tout son histoire et tout. Et je trouve intéressant qu'il y a aussi une connaissance de Jésus qu'on voit aujourd'hui, qui a une possibilité et vraiment une tendance à enlever la foi des gens. Une connaissance telle que il est le Jésus historique. C'est Jésus qui ne fait pas de miracles, qui a vécu à une certaine époque, qui est représenté dans les tableaux de Vinci, qui peut-être s'est marié avec Marie-Madeleine et puis s'est échappé en Europe. Enfin, des connaissances, des gens qui sont très intelligents, il faut dire. mais qui ont développé des explications scientifiques qui n'ont rien à voir avec la vérité. Comme tous ces gens-là, ils avaient des connaissances observables qui contredisent la vérité de lui. Parce que tout ce qu'il connaissait, c'était une petite période de sa vie à Nazareth, alors qu'ils ont tout raté, tout ce qui s'est passé en Bethléem et toutes ces autres choses. Et donc ils ont basé leurs opinions sur le petit parti de ce qu'ils connaissaient, tout comme aujourd'hui. Ils admettent deux ou trois choses historiques, et puis ils inventent pas mal de théories là-dessus. Beaucoup de connaissances, beaucoup de théories et opinions, mais très, très éloignées, comme ces gens-là. Et ça a des conséquences graves, parce que ça empêche de voir le vrai Seigneur, qui il est réellement. Mais Jésus leur répond: ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je ressusciterai au dernier jour. Donc il répète. Autrement dit, si vous refusez de croire, si vous voulez croire à ce que vous voulez croire, ça ment. Le Père ne vous attire pas, vous avez refusé. Et donc voilà, finalement. Ça ne veut pas dire, c'est très important, que le Père prédestine les gens à l'enfer. Car il y a justement cette doctrine, notamment dans le calvinisme. Alors pourquoi on ne peut pas parler de prédestination à l'enfer? D'abord parce que on ne trouve pas cette phrase dans la Bible. Toutefois que nous voyons le mot prédestination, c'est toujours à ceux qui sont élus pour la vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu connaît qui vont le rejeter, mais ce n'est pas sa volonté. Il ne les a pas créés pour qu'ils remplissent l'enfer, pour que ça brûle mieux, comme disent les gens. Non, il leur a donné le choix. Il leur a donné toute possibilité. Et justement, dans cette histoire, on peut se demander, on peut se dire avec justice, avec justesse, est-ce que Dieu aurait pu faire mieux pour ces gens, pour qu'ils acceptent Christ? Eux, ils ont mangé le pain que Jésus a multiplié lui-même. Ils ont vu pas mal d'autres miracles. Ils ont assisté aux enseignements à vive voix, créateur des cieux et de la terre. Puis, par leur propres préjugés, ils l'ont refusé. Est-ce que ces gens-là avaient une meilleure possibilité ou peut-être est-ce que leur occasion d'accepter le Seigneur était défavorisée par rapport à une autre personne? Je pense pas. Je pense que eux, ils ont eu les meilleures chances que n'importe qui marche sur cette terre. Pourtant, nous voyons que malgré tout cette bonne privilège qu'ils ont eu, ils ont quand même refusé. Et ça, contre ce que Dieu voulait faire. Parce que si Dieu voulait, excuse-moi, si Dieu voulait que ces gens aillent en enfer, Jésus n'aurait même pas pris le temps de leur expliquer tout ça. Il n'aurait jamais guéri leurs malades. Il n'aurait jamais nourri ces gens, pris le temps pour les enseigner. S'il s'agissait simplement de quelques élus, il aura simplement ramassé les élus et renvoyé les autres. Et ça nous montre une chose aussi, que si ça s'est arrivé à l'époque de Jésus, on pouvait le voir face à face. Ça ne doit pas nous étonner que ça arrive aujourd'hui, qu'il y ait des gens qui entendent et qui comprennent quelque part la parole de Dieu, puis ils le refusent, ils n'en veulent pas. Et Jésus, il poursuit. Il dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement, vient à moi. Donc il emploie un passage en Ésaïe qui parle des temps messianiques. Donc c'est le temps messianique puisqu'il est là, mais il y a un accomplissement futur. Et il annonce très clairement que ça s'applique à lui. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il est Dieu. Vous serez enseigné par Dieu, c'est moi qui vous enseigne. Donc, je suis Dieu. Comment est-ce qu'il peut être le pain de vie qui nourrit les gens, qui les garde bien dans sa voie et qui les ressuscite au dernier jour s'il n'est pas Dieu? Donc, en disant que vous rejetez ma parole, vous ne croyez pas en moi, qui en réalité ne croit pas en Dieu dans le sens qu'il faut. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, moi, je suis le pain de vie. Comme le pain donne la vie, ici, nous parlons de la vie éternelle. Ce pain de vie. Et notez la comparaison. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Qui sont morts dans le désert? Ceux qui n'ont pas cru dans la promesse de Dieu pour entrer dans la terre promise. C'est cette génération qui est morte dans le désert, bien qu'ils ont mangé la manne. Un petit peu comme ce que nous voyons dans le passage. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel, et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Alors là, nous touchons encore un autre débat. Et je trouve parfois, on complique les choses. Depuis le début, dans le contexte, est-ce que Jésus parlait de sa chair réellement? C'est assez clair qu'il parlait des choses célestes, parce qu'il revient toujours au monde spirituel. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une branche de l'Église qui tire ces versets tout à fait hors de leur contexte pour vouloir dire que, du coup, quand le prêtre fait son bénédiction, ça devient réellement la chair et le sang de Christ? C'est un peu mystérieux, mais c'est bien ça aussi ce qu'il voulait créer, je pense. Parce que tout ce que Jésus veut faire, notez-le bien, c'est de réconcilier l'homme pécheur avec Dieu saint. C'est ça qu'il faut qu'il mange le pain, pour qu'il y ait communion. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette doctrine? Ça sépare l'homme pécheur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un prêtre, il faut qu'il y ait un homme qui prononce la bénédiction, qui fait en sorte que Christ soit crucifié à nouveau, qui est déjà une hérésie. Christ ne peut pas être crucifié de nouveau. Il est crucifié une seule fois pour toute éternité. Mais ça donne la puissance sur Christ pour un homme, ce qui est déjà assez remarquable. Et puis, tout le monde vient à cet homme pour recevoir que Jésus promet si les gens viennent tout simplement directement à lui. Et ça, c'est pourquoi les réformateurs se sont virulement opposés à cette doctrine, justement. Parce que ça met une barrière entre les hommes et Dieu que Dieu n'a pas voulu. Justement, Jésus-Christ est mort pour que cette barrière soit détruite. Et il en parle, justement, en parlant de sa chair, brisée pour nous. Les Juifs se querellaient entre eux et disaient « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Eux, ils sont toujours dans cette idée physique. Et ils ont raison de le dire s'ils pensent ainsi. Parce que dans la loi, il est même hors de question de toucher un cadavre. Et puis on parle de manger réellement la chair. Et si l'écriture ne peut jamais être brisée, comment est-ce que Jésus aurait pu instaurer une telle ordonnance qui brise tout à fait la loi qu'il a créée lui-même? Jésus est innocent selon la loi. Il a accompli. Jésus leur dit en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange et vivra par moi. Donc, encore, c'est une image de la foi. Comme lui, il vit en son Père et le Père vit en lui, c'est une image de ce qu'il vient de dire. Il répète pour qu'il saisisse la leçon. La leçon, c'est que la foi ressemble tout simplement à quelqu'un qui mange du pain, qui mange du pain pour vivre. Il sait que par la nourriture, il aura les forces pour vivre. Et donc, il prend l'acte de manger ce pain. Ce pain entre en lui et, grâce à son digestion, ça lui donne la force pour continuer à vivre. De la même manière, la foi, nous venons à Christ parce que nous savons qu'il a la vie. Et nous entrons en lui, c'est le fait d'aller à la boulangerie, et puis nous mangeons, nous communions avec lui, et il entre en nous comme le pain entre en nous, et en lui est la vie, et comme le pain nous donne la force pour vivre physiquement sur terre, ce qu'il nous donne nous régénère et nous renouvelle et nous donne la capacité de vivre éternellement et continuer à vivre. Donc c'est une image de la foi, la vie par la foi. Il est le pain de vie. Il est tout ce dont nous avons besoin pour vivre éternellement. Donc il faut réellement manger, il faut vraiment boire. Mais notez bien, si on fait une comparaison entre les verbes manger et boire, il met ça en comparaison avec demeurer et vivre éternellement. Encore, on parle spirituellement, mais nous parlons, je crois, parfaitement. Parce que c'est une vie parfaite, une vie totale, une vie plus durable. On a cette mauvaise impression souvent que c'est ce qui est physique et ce qui est de réel. Et il y a une partie de la vie éternelle qui commence ici, bas. Mais c'est éternel, ça dure pour toujours. Donc quand il dit que c'est un vrai nourriture, oui, c'est vrai, c'est la plus vraie nourriture qu'il y ait jamais eu, parce que c'est de là où on prend nos forces spirituelles. Et c'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qui ont mangé vos pères. Donc voilà, ce n'est pas comme ce pain qu'ont mangé vos pères. Ils sont morts. Ce n'est pas un truc physique. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et ce que Jésus dit alors, lorsqu'il a enseigné dans la synagogue à Capernaum. Alors, toujours quand Jésus parle comme ça, il a un discours qui dit, avec des images, pour aider les gens à comprendre. Et puis ensuite, il explique avec ses disciples. Ça, c'est une méthode qu'il a utilisée notamment avec les paraboles. Les disciples viennent après, il leur explique ce qu'il a dit. Mais ces images sont pour aider la compréhension. Mais à notre sens aussi, pour ceux qui s'y intéressent pas, ils sont arrêtés aux images. Et c'est la porte qui ferme sur eux. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a toute une explication après. Et voilà ce qui s'est passé. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Ils l'ont dit parce que eux, ils ont compris ce que les autres ont compris, qu'il parle de cannibalisme. Donc Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient, bon, ils n'ont pas encore saisi à ce sujet, il leur dit, cela vous scandalise? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est-à-dire que il est en train de leur expliquer des choses célestes. Il est en train d'utiliser des choses qu'ils connaissaient à partir d'un événement qu'ils ont tous vécu ensemble. Et s'ils n'ont pas compris avec ça, il dit, mais comment est-ce que vous pouvez comprendre ce monde qui est totalement en dehors de ce que vous reconnaissez ici-bas? Si ces choses en commun vous scandalisent et vous n'arrivez pas à aller plus loin, il n'y a pas d'espérance pour après. Parce que c'est tellement grand et tellement vaste et tellement puissant. Vous allez exploser. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà. Voilà l'explication. C'est esprit et vie. C'est-à-dire que c'est donc des choses spirituelles. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Esprit spirituel, c'est l'esprit qui parle au travers de lui pour qu'ils aient la vie, qu'ils aillent directement à Christ pour qu'ils aient la vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrait. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela n'est donné par le Père. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Car le choix. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru. Et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. C'est toi le Christ.
Alors,
si tu nous expliques des choses, donc on a du mal à saisir, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, ce que nous voyons avec Pierre, sont des paroles de la foi. Si donc, vous êtes arrivé dans votre vie à être dans des situations où peut-être vous ne comprenez pas tout, mais vous savez que Jésus est vrai. Vous voyez que les autres, ils tournent le dos et ils s'en vont. Vous voyez votre vie, et vous savez que de toute façon, vous êtes satisfait. Vous savez que Jésus, il a tout ce dont vous avez besoin. Vous voyez donc que vous vous êtes inscrit sur la même page que Pierre. Ce sont des paroles de foi. C'est la marque quelqu'un qui a mangé le pain de vie. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi les 12 et l'un de vous est un démon ?» Parlez de Judas, fils de Simon Iscariote, car il était lui qui devait le livrer. Lui, l'un des 12. Là, nous voyons que Jésus, il savait tout. Il savait tout. Alors, si à l'époque de Jésus, les gens l'ont rejeté pour suivre leurs appétits sensuels, charnels, ça ne doit pas nous surprendre que ça existe aujourd'hui. Mais parfois, ça nous surprend quand même. Et quelque part, on ressent même un cœur brisé de la part de Jésus. Et je pense aussi pour nous, il y a des moments où ça peut nous briser aussi. Encore, ça doit nous renvoyer vers ce que Pierre a dit. Où irons-nous de toute façon? Ce n'est pas la chair qui importe. Toutes les belles paroles charnelles, ça ne sert à rien parce qu'un jour ou un autre, ça va tomber à l'eau. Et puis, Jésus, lui par contre, il a les paroles de la vie. C'est l'esprit qui vivifie. Et donc, dans ces moments comme ça, ce qui est bien, c'est d'être comme Pierre et de se rapprocher de Jésus. Parce que dans ces moments-là, nous pouvons avoir justement la communion avec lui. Parce que c'est lui qui le rejette, en trouvant justement la consolation qui vient de lui. Sachant que finalement, ce n'est pas aussi triste que ça, puisque pour nous, ce qui concerne nous, on a la vie. On a trouvé la vie. On a trouvé celui qui satisfait réellement et qui nous vivifie. Et ça, pour toute éternité. Prions.